Majid Amor, porte-parole de l'association de pêcheurs des Arzis.
Le 21 septembre, une embarcation sur laquelle il y avait 18 personnes, 15 mineurs, on peut dire qu'ils sont âgés de moins de 17 ans, 18 ans, deux femmes et un bébé de 8 mois. Ils ont quitté les côtes de Zarzis, bien sûr, vers l'espace européen à travers Lampedusa. Et on a perdu, leurs familles ont perdu contact avec eux dans la soirée même. Et jusqu'au 23 septembre, on n'avait aucune information. Du coup, leurs familles, ils ont commencé à s'inquiéter, ils ont commencé à se poser des questions. Et ils ont demandé l'intervention des gardes-côtes afin qu'éventuellement ils puissent les aider s'ils sont naufragés. S'ils sont en Libye ou non, si les autorités maltaises les ont récupérés ou non, si aussi les organisations de sauvetage qui travaillent dans le Méditerranée, s'ils les ont rencontrés ou non. Et il n'y avait que des réponses négatives. Et bien sûr, à travers tout ça, le 26 septembre, une excursion à travers les pêcheurs a été organisée par l'association Le Pêcheur et son président, M. Chemseddine Bourassine, et les pêcheurs de Zarzis. Il faut dire que cette première excursion, elle était fructueuse parce qu'on a trouvé deux corps et qu'on a signalé tout de suite leur présence avec les coordonnées et tout aux gardes-côtes. Là, il y a un ensemble vide si les gardes-côtes les ont récupérés ou non. Chose qu'on ne sait pas encore. On a posé cette question, on n'a pas cessé de poser cette question, mais on n'a pas trouvé de retour. Et après le 26, une rumeur a été fortement circulée que ces personnes naufragées, ils sont en Libye. On peut pas dire qu'ils sont naufragés, mais ils sont perdus. Ces personnes disparues, ils sont en Libye. Et du coup, les efforts déployés par les pêcheurs, ils ont stoppé tout de suite parce qu'on attendait des négociations avec, suivant les rumeurs bien sûr, des négociations pour récupérer ces personnes-là. Et jusqu'au 2 octobre, un cadavre a été repêché, recueilli sur les côtes de Djerba. Et à travers les photos, ce n'était pas à travers une analyse ou ce n'était pas vraiment quelque chose d'officiel, on peut dire. Mais c'est à travers une photo qu'on a reconnu que c'était la fille, une des femmes qui était sur cette embarcation. Elle était noyée, bien sûr. Et tout de suite, on a demandé à ce qu'une analyse ADN soit faite pour la confirmation. Et d'ailleurs, c'est la procédure. Et c'était la confirmation que c'était bien elle. Et là, on a commencé à se poser des questions en tant que pêcheur, en tant que connaisseur du domaine marin, des courants d'eau, du temps nécessaire pour que les personnes noyées soient rejetées sur plage. Il fallait impérativement, en faisant le calcul des dates, il fallait impérativement qu'on trouve les personnes. On a trouvé qu'il y a des cadavres qui ont été rejetés sur plage, mais qu'on ne nous a pas informés. Et grâce à ce qui est arrivé le 2 octobre à travers Melek, on a organisé une autre excursion pour la recherche. Et c'était bien sûr les côtes. On a fait deux recherches sur toutes les côtes entre Zarzis et Djerba pour chercher éventuellement si on pourrait trouver des cadavres. On est allé même avoir au-delà du pont de la route romaine entre Zarzis et Djerba, parce qu'il y avait un grand oued là-bas, il faisait un énorme courant d'eau et peut-être éventuellement il pourrait être jeté de l'autre côté, du côté de Bourrara. Mais chose qui n'a pas été prouvée. Et le 9 octobre, dans la deuxième journée de recherche sur côte, c'était le choc parce que là les pêcheurs ils posaient énormément de questions, ils trouvaient beaucoup de trucs incohérents Et en faisant voir une des photos qui a été prise le 26 septembre pour les deux cadavres trouvés, une mère des naufragés a reconnu tout de suite son fils. Et là, c'était le choc parce que entre le 26 septembre et le 9 octobre, ça fait beaucoup de temps. Et normalement, ce cadavre-là, il devrait être repêché en Tunisie, recueilli par les autorités. On devrait faire appel à les familles pour éventuellement les reconnaître. On devait impérativement faire des analyses ADN, chose qu'on croyait qui se faisait automatiquement. Mais rien de tout ça ne s'est passé. Et on a commencé tout de suite à se poser des questions. Où est le cadavre? Le 10 octobre, l'association Le Pêcheur, grâce à ces pêcheurs, et que je salue énormément, grâce à la grande mobilisation, mais l'immense mobilisation de la part de la société civile, que ce soit ici à Zarzis ou même nos compatriotes qui sont à l'étranger, ils ont couvert toutes les dépenses de gasoil et de fournitures nécessaires pour aller faire de la recherche. Il y avait pas moins de 25 embarcations qui sont parties pour faire ces recherches-là en mer, mais on a couvert tous les côtes de Zarzis, allant vers l'est 20 000 marins et jusqu'au-delà du lieu où on a trouvé les deux premiers cadavres. Et on a trouvé 6 cadavres qui flottaient sur mer. On a déclaré tout de suite aux autorités de la garde-côte, bien sûr. Il fallait dire qu'ils n'étaient pas vraiment coopérants parce que pour les deux premiers cadavres, ils ont intervenu, ils ont pris ces cadavres-là. Mais après, pour les 4 autres, c'était vraiment très, 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 très lent. Et non, on n'avait pas les moyens, on ne s'est pas préparé. Alors qu'on a fait une conférence de presse pour annoncer qu'on allait faire cette excursion-là. La deuxième journée, le 11 octobre, on a refait la même chose. Et on était parti pratiquement le même nombre. On avait un très beau temps ce jour-là. Et on a couvert encore plus d'espace et on a trouvé un seul cadavre. Et le 11 octobre, c'était le vrai choc. Parce que en montrant les photos des personnes qui ont été recueillies sur plage le 2 octobre, je crois, ou 4 octobre, la femme a reconnu que c'est son fils. Et c'était la même personne que les pêcheurs, ils ont trouvé le 26 septembre en mer. Normalement, la logique des choses dit que ces personnes-là n'ont pas été recueillies de la mer. Ils ont été directement emmenés et ramenés, enterrés vers le cimetière des Jardins d'Afrique, sans prise d'ADN, sans information pour la famille pour les reconnaître, sans rien du tout. Là, on commençait à avoir beaucoup d'informations incohérentes. Les autorités, à chacun sa version, à chacun ses données, et on commençait à voir, on sentait que quelque chose s'est passé et qu'ils voulaient camoufler les choses. On ne peut pas dire que c'est une accusation claire et nette, parce qu'on n'a pas vraiment les données. On n'est pas habilité même pour donner ces accusations-là, mais chose qui se force, qui s'oblige pour nous. Merde, où sont les cadavres? Pourquoi il y a deux cadavres qui ont été recueillis en mer, qui devraient être recueillis en mer le 26 septembre, alors que ces deux mêmes cadavres, on les a trouvés le 2 octobre sur plage? Pourquoi ces cadavres-là, ils ont été enterrés directement au Jardin d'Afrique? Qui a autorisé ça? Et comment est-ce qu'ils osent autoriser ça, alors que les autorités tunisiennes, ils ont déjà des conventions avec l'Union Européenne, avec le Médecins Sans Frontières, les Droits de l'Homme, l'OIM, l'UNHCR? Ils devraient impérativement faire une prise d'ADN. Pourquoi est-ce que tout ça n'a pas été fait dans les règles de l'art? Il y aura une investigation.
Jalel Abdeslam, citoyen de Zarzis.
Je suis pas un parent, mais j'ai un cousin, ma mère, qui a été un des victimes. Ils étaient plus précisément 16, entre 16 jeunes, plus un bébé. On a attendu dès la troisième, soi-disant dès la deuxième journée, on commence à être inquiet. Personnellement, avec Shams, on a contacté des Libyens, on a contacté Tripoli, on a contacté
l'Italie.
On a contacté l'Italie à la première journée. Moi et Shams, surtout Shams qui est un responsable, il a contacté une Italienne à Lampedusa. et qu'elle n'a fourni une fausse formation. Elle nous a dit que le bateau est arrivé et au bateau il y avait 12 Artésois, alors que le bateau qui a été arrivé à Pedrosa, c'était le bateau djerbien. Elle est sortie le jeudi. On a contacté la Libye, rien. On n'a reçu aucune réponse. En Italie, il n'y a aucune réponse. On commence à être inquiet.
Vous avez eu au téléphone, vous avez eu rapport avec la mairie de Zarzis, avec l'hôpital,
oui,
avec
oui,
le gouverneur. Bon, comment c'est, ouais. Quelle réponse vous ouais. recevez comment c'était?
Lors de la première journée, le gouverneur de Médine était déplacé ici. Ensuite, on s'est vu à l'hôpital. Moi et lui, Shams, on a parlé avec lui, avec la garde marine. Tout à fait normal qu'il y avait les marins aussi, les pêcheurs, que je les salue. Ils ont créé un très grand effort. Ils ont fait tout. Ensuite, on parlait, on a discuté à l'hôpital. J'étais présent lors de le prélèvement. Il y avait 3 cadavres qui sont été enterrés au cimetière le jardin, qui s'appelle le Jardin d'Afrique, où on avait 2 femmes à l'hôpital de Gabès. Bon, le lendemain, le gouverneur est venu lorsque les pêcheurs étaient en train de chercher encore à la mer. Nous, le gouverneur a créé avec les responsables un groupe ou une ligue de crise. Tu sais, c'était pas, on n'a pas contacter les parents, parce que les parents étaient en tristesse, en une grande tristesse. Même, ils ont refusé, ils ont dit que qui vous a ordonné de faire ça, comme ça. Mais nous, on a commencé à faire un travail simple, c'est de contacter la garde des marines, la police, l'hôpital. Tu sais, moi, je raisonne la colère des familles. Parce qu'on a vu que ça avance doucement, même rien avancé, avec la pression des parents et de cette petite ligue qu'on est maintenant, elle n'a pas d'existence, parce que je vois que c'est ça rien à foutre avec le problème. C'est ça, c'est pas ça le travail, parce que on nous manque beaucoup d'outils. Ils ont été, ça c'est l'arrivée des cadavres à la cimetière dès le 18 jusqu'à nos jours. Il y avait 3 de nos enfants sur 4. Tous les trois, malheureusement, étaient anonymes, sans ADN. Et ça qui a causé la grande colère des parents et des Arzissois. Aymen, Knishil, Mohamed Ali et Saifuddin Leiba. La question c'est pourquoi les victimes ont été enterrées sans ADN. Louez-le,
Chamseddine Marzouk, activiste et pêcheur.
Avec lui, on a parlé de comment formellement encore récupérer à la mer et enterrer.
Les cadavres, ils sont trouvés probablement par des petits pêcheurs sur les côtes. Ou bien parfois par des pêcheurs dans 6 miles, 5 miles. Mais la plupart, ils tombent sur les plages. Ils trouvent les cadavres ou bien des petits pêcheurs sur la plage. Ou bien des citoyens qui se promènent comme ça dans les plages. Ils trouvent un cadavre. Ils téléphonent au garde maritime. Le garde maritime, il prévient la mairie et la protection civile. Et nous, le Croissant Rouge, tant que volontaire Chamseddine. Et après, on commence les étapes. On prend des sacs mortuaires, on lave le cadavre, on l'emmène à l'hôpital. Et nous, comme volontaires, on reste toujours loin des papiers, des choses. C'est la mairie, le garde. Mais pour la protection civile, leur travail sur la plage pour vous aider à faire le cadavre dans le sac mortuel. Lorsqu'on est en hôpital, moi je prends ma place parce que ce sont des choses qui sont pas pour moi. Moi je suis volontaire à enterrer. Mais les papiers se font de garde maritime, mairie et procureur. Dès que les papiers ils sont préparés, et que le fax qui vient du procureur, c'est l'autorisation d'enterrement, on bouge. Et les autorisations, c'est, ça ne se fait pas dans une minute à l'autre. Parfois, le procureur il n'est pas libre, il a des choses à faire, ou il n'est pas là, ou la nuit, il faut attendre, ou téléphoner, et c'est ça. Dès qu'on a l'autorisation, on bouge directement à la cimetière. C'est ça les procédures qu'on a. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, ces dernières années, c'est fou. On n'a que à 10 mois. Je ne sais pas pourquoi l'État ne veut pas travailler sur ces corps.
72 heures.
Vous savez, le corps, l'être humain, il est respecté sans voir sa religion ou sans couleur de peau, parce que dès qu'on trouve une cadavre, il faut le respecter, il ne faut pas voir quelle religion ou quelle peau, couleur de peau. L'État, elle enterre les gens comme ci, comme ça, et ça va changer beaucoup des idées pour les recherches des disparus. Maintenant, les gens qu'on est avec, les mères des disparus, qu'on se déplace avec pour la liberté de circulation, pour chercher les ADN en Italie, maintenant c'est à l'envers. Il faut chercher maintenant dans les deux côtés. Maintenant, les mères ils vont chercher dans les cimetières des inconnus de toute la Tunisie, sur le large de la Tunisie, de Bizerte à Benguerdel. Et le Méditerranée, il est devenu le plus grand cimetière du monde. Et ça, on ne veut pas. Il faut que l'Europe, qu'elle réalise, facilite les visas. Et au lieu de protéger les frontières, il faut protéger l'humain et l'humanité.
Alec Nis, militant et chercheur en sociologie et sciences politiques.
Dans quoi ce qui s'est passé à Zarzis a une relevance politique et pourquoi c'est important?
Oui, ce qui se passe maintenant à Zarzis depuis le 21 septembre, l'importance politique dans ces actions qui pose beaucoup de questions. La première question, c'est la relation entre la Tunisie et l'Union européenne, l'Italie et la France. C'est les deux pays qui sont en des relations intéressantes avec la Tunisie. La Tunisie elle a des partenariats avec l'Italie et la France, surtout par rapport aux politiques publiques en global. Et surtout dans ces cas, les relations, les causes de la migration. La Tunisie maintenant, elle devient comme le pays qui protège les frontières de l'Union européenne et de l'Italie. Et déjà, les frontières européennes, maintenant, elle est sur nos plages. Et le rôle de l'État tunisien, de protéger, de garder, de contrôler. Maintenant, on ne parle pas d'un espace de frontières qui est loin d'Italie ou de France ou de l'Union européenne. Mais cet espace, il est maintenant sur nos plages. Nous connaissons qu'il y a des conventions en rapport à la question faire le retour des gens qui sont vus en France ou en Italie en situation non légale. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a des conventions, il y a des aides logistiques pour protéger l'Italie des flux de migration. Parce que la Tunisie, les Arzis spécialement, il y a beaucoup de flux de migration. Et toujours à Arzis, on a des migrations qui sont venues de le côté de Libye. Comment ça se passe? des bateaux de ces migrations, ils sont sauvés principalement par les pêcheurs des Arctiques. Et ces cas existent depuis 2009. Les pêcheurs essayent de sauver les gens qui sont essayent d'aller à l'Italie, à Lampedusa exactement. Déjà, le faire de la question de la cimenterie des étrangères ou de l'inconnu.
Oui,
ces cimenteries des étrangères ou les personnes inconnues, elle est hasardiste depuis la période avant la révolution tunisienne de 2011, du 17 décembre 2010, 14 janvier 2011. Avant la révolution, c'est le flux de migration, elle existe. Mais la migration depuis la Tunisie, elle n'est pas intéressante. Les périodes après la révolution, ou le lendemain de la révolution en 2011 exactement, le flux d'immigration des Arzis, des plages des Arzis, elle est très 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 intéressante si on peut comparer les chiffres. Pour cela, le rôle de l'État tunisien elle est développé vers que soit la Tunisie, l'État tunisien, comme l'acteur qui protégeait les frontières européennes, qui s'étaient, comme je dis déjà, sur nos plages.
Le rôle de la garde-côte tunisien, c'est pas forcément celle d'aider des bateaux qui sont en difficulté à la mer, mais plutôt d'éviter la migration.
Oui, oui, le rôle des gardes nationales, surtout en Tunisie, ce n'est pas, les gardes nationales ne sauvaient pas les gens. Dans tous les cas, c'est juste les pêcheurs qui ont fait ça, et après appeler les gardes nationales. L'autorité sécuritaire tunisienne ne sauvait pas des gens. Mais, parce que les pêcheurs sauvaient des gens, on a maintenant des organisations internationales, soit l'OIM, Organisation Internationale d'Immigration, soit le NHCR. On a ici trois foyers, ce sont des foyers temporaires, soit des gens qui sont venus des plages des parties côtières des Arzis, soit des Sfakas et Gabs et Zerba Ben Girdem. Il y a aussi des autres foyers. Il y a aussi un autre foyer au Médnin. Médnin, c'est le capital du gouvernement de Médnin. L'Arzis, c'est une délégation. Il y a un autre foyer au Tataouine, c'est notre gouvernement voisin. À Tataouine aussi, il y a un foyer. Et ces agences des Nations Unies, on parle de NHCR, et aussi l'OIM, financer des projets pour créer des foyers, pour regrouper les migrations, les gens, il y a des femmes, il y a des familles déjà. Et après la période temporaire de rester dans ces foyers, ils sont laissés les gens pour trouver un travail, trouver un logement, etc. Il y a quelques aides financières pour ces hommes et ces femmes, mais il y a aussi des programmes de retour, on s'appelle sur le papier du retour volontaire. Mais en réalité, c'est un programme de retour par obligation. Le rôle de ces organisations est de faire de la Tunisie comme un grand foyer et comme un grand prison. Pour soi, on parlait déjà de l'Essab saharaïen, il y a des Égyptiens, des Marocains, de l'Essab d'Asie, tous sont venus de la Libye. Une autre chose que la Tunisie a développée comme un pays, qu'elle a maintenant allé comme un prison pour ses citoyens. Ah. Intéressant dans cette période et ces moments de protestation, c'est la question de l'ADN. Parce que l'IAD, c'est une tri de migration et de réfugiés ou des gens qui sont, ne connaissent pas son identité. Le premier, c'est une tri, la majorité des gens sont sans ADN. La nouveau, c'est une tri, le jardin s'appelle Jardin d'Afrique. La majorité de ces gens qui sont entrés dans cette cimenterie avec ADN. Mais parce que dans ces périodes, l'État a trouvé quelques corps, elle est entrée dans la terre sans ADN. Il y a maintenant une conscience dans la population que l'ADN faut être chose obligatoire. Qu'une personne, un homme, soit homme ou femme, pour la géographie des artistes, les mères levées des corps, toutes les personnes ici, de demander que l'ADN doit être obligatoire. Et je pense qu'avec ces situations actuelles, on va aller vers l'obligation de l'ADN. Parce que c'est un problème soit des médecins, soit des procureurs, soit des justices, etc. ne demandent pas l'ADN. Mais dans ces périodes, il y a des familles qui sont contactées, une famille de Tunis, une famille de Libye, des gens de leur famille qui sont disparus, une en 2020, l'autre en 2022. Ils sont contactés pour chercher son fils ou son frère.
Qui était enterré ici?
Non. Il me pose la question pour chercher ces deux gens. Il y a plein de gens. Ce sont des gens qui sont morts dans la mer. Pour cela, la demande de l'ADN, c'est une demande principale du mouvement de l'immigration pour toutes les familles disparues, soit de quel pays. Si cette famille cherchait son fils ou son quelqu'un, trouver une base de données de l'ADN pour le chercher. Nous demander de faire un laboratoire de l'ADN à Zarzis pour tous les corps qui sont enterrés à ces cimenteries, ont les chances de l'ADN. Pour à tel jour, quelle famille venir soit du Maroc, des Algérie, de l'Afrique subsaharienne, du Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Soudan, de tous les pays, trouve une base de données et les familles faire l'ADN et comparer son ADN avec les bases de données pour trouver la vérité.
تظاهرا على الاحداث اللي صايره في تونس، على الاحداث اللي صايره في جرجيس بالضبط، التكتم الدولة على التصرف اللي صار من الحاكم كما نقولوا احنا. مش معقول يعني تجيب جثة وجثة من غير عديان لحد شيء وتدفنها في مقبرة الغرباء، معناتها وانت عارف الاحداث اللي صايرة وعارف الناس غرقت في الفترة هيكي. الحكاية هذه ظهرت برشة ميليشيات متاع فساد، شفنا مقبرة الغرباء حد ما يعرف عليها، مش انها شفناها مقبرة سانك توال برابور المقابر متاع ذرية بلادنا. التصرف متاع الدولة هذا ما يجيش جملة. احنا باش جينا كل نطالبوا بالحقيقة شن صار، علاش التصرف هذا من الدولة، علاش لله محمد رسول الله، علاش تعمل هيك في ذرية بلادها، علاش حتى إطار سياسي مع دوي في الحكاية هذه. كل شيء بعد ما مرت فترة طويلة ياسر، برشة تساؤلات جينا هني نحبوا نعرفها، نحبوا نعرفوا مصير بقية أولادنا، نحبوا نعرفوا بعد الحكاية هذه شنو مازال فما.
مش حقه، حسبي الله ونعم الوكيل، يا ربي الاعتراض على حكمك، اما حكم العبد هو اللي يقهر، يا ربي الاعتراض على حكمك، يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله.
انا مقبولين بالشعب، انا مقبولين بالشعب يريد، انا مقبولين بالشعب يريد.
Qu'ils arrivent, calme. Donnez les enfants à leur famille. Vous voulez, c'est l'État là, alors là, c'est l'État qui fait tout ça là. C'est l'État ici. C'est l'État qui.
Elle voudrait un rapport pour la mort de sa sœur. Elle est le bébé, elle est où?
L'ADN. Il n'y a pas d'autre
pays. On fait votre carrière.
Elle voudrait un rapport officiel par l'État, comment sa façon de mort. Et pour le bébé, il est où?
Le bébé, oui. Le bébé, il faut les deux.
Donc, il a les moyens, mais les moyens, ça vient d'où? Ça vient de nos enfants qui travaillent à l'étranger. Donc, et si c'est vrai, on a pratiquement tout. On a le potasse, on a des richesses marines vraiment indescriptibles et innombrables. Mais il y a... où est-ce que tout ça part? C'est ça, la répartition des richesses de la région, ça ne va pas pour les enfants de la région. Même pour ceux qui ont... ils ont eu la possibilité d'avoir des études assez supérieures, donc ils sont au chômage. Donc c'est ça le problème de la région. Donc il n'y a pas de soutien de la part du gouvernement, il n'y a rien, il n'y a pas cette volonté de développer la région, de soutenir les enfants. Donc un enfant de 10 ans qui rêve d'aller en France, mais pourquoi faire? Parce qu'il sait que là-bas, par exemple, il aura donc un minimum de droits, de garanties, donc minimum sécurité, enseignement. Donc aller voir donc nos collèges, nos écoles, ça ressemble plutôt à des prisons. Donc il n'y a rien d'attrayant, il n'y a rien d'attractif.
مليون وربع عايشني في بلادي، يا ليل حتى نموت يقولوا عادي، يا ليل حتى نموت يقولوا عادي، يا ليل اللي ما عرفت هويتنا، يا ليل بلادي ومحسوبة دولتنا، يا ليل بلاد ومحسوبة دولتنا، يا ليل دولتكم اللي ما نقضتني، يا ليل يا ليل في جبان غري بارد متني يا ليل يا ليل في جبان غري بارد متني يا ليل يا ليل بحرر ما انا بين ايديكم يا ليل يا ليل وحسبتونا غراب عليكم يا ليل يا ليل وحسبتونا غراب عليكم يا ليل يا ليل جثتنا لي ما عرفتوها يا ليل يا ليل بربي للغارق خلوها يا ليل يا ليل بربي للغارق خلوها يا ليل يا ليل حرقك انا جربتوها يا ليل يا ليل شويت لمي ما تحسوها يا ليل يا ليل شويت لمي ما تحسوها يا ليل يا ليل حرقه ودافعها من دمي يا ليل يا ليل وحالف باش نفرح امي يا ليل يا ليل وحالف باش نفرح امي يا ليل يا ليل يا تاريخ اكتب لي صار يا ليل يا ليل شبابك لا تال بحار يا ليل يا ليل شبابك لا تال بحار يا ليل يا ليل اللي رميتوهم وسطك ياس يا ليل يا ليل اولاد بلادي مش رخاص يا ليل يا ليل اولاد بلادي ومش رخاص يا ليل يا ليل اللي نحطوا في ساشية يا ليل يا ليل هوك اولاد العكارية يا ليل يا ليل هوك اولاد العكارية يا ليل يا ليل اولاد بلادي ما ينهنوا يا ليل يا ليل تمسحوا ملامحهم ما بانوا يا ليل يا ليل تمسحوا ملامحهم ما بانوا يا ليل يا ليل كان هاللي صاير عادي يا ليل يا ليل كان هاللي صاير عادي يا ليل يا ليل كان هاللي صاير عادي يا ليل يا ليل اقنعني ونقعد في بلادي يا ليل يا ليل اقنعني ونقعد في بلادي.